Nous sommes sur la radio LGTDZ et nous sommes en bonne compagnie. Vous l'avez sûrement déjà entendu sur notre émission tous les mardis sur Croc Radio lors d'une intervention avec notre poteau Oscar Eke The Groove Trotter. Et là, tout de suite, elle a le mic, elle prend les rênes, notre chère Léa Lou qui vient nous parler de sujets essentiels sur la radio sous la forme voilà, d'une petite conversation à la fraîche. Léa, bonjour, comment ça va ?
Bonjour Alpha, ça va très bien et toi ?
Yes, donc du coup, de quoi vas-tu nous parler ?
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des violences sexistes et sexuelles et de à quel point on est ignorante et ignorant sur le sujet.
C'est un vrai, vrai, vrai sujet qui d'ailleurs fait écho à l'actualité en ce moment.
Totalement.
Je pense notamment à un certain procès, enfin certains procès même au pluriel, car maintenant ça commence à se multiplier. Et donc, voilà, ce sujet, violence sexiste et sexuelle, comment le définirais-tu ?
Voilà, ça se définit de plein de façons. C'est vraiment, je dirais que c'est le pendant du patriarcat. Le point sur lequel je voulais revenir d'abord aujourd'hui, c'est des commentaires que je vois beaucoup, notamment en ce moment. Bon, il y a le procès Depardieu, mais ça marche pour tous les autres procès. En fait, à chaque fois qu'il y a un nom qui sort, quelqu'un qui est accusé de violence sexiste ou sexuelle, d'agression, il y a toujours quelqu'un qui va écrire « Ah non, pas lui !» ou qui va être choqué ou dégoûté ou qui va voilà, réagir en étant surpris que cette personne, son idole ou son ami soit potentiellement coupable ou on va dire suspecté de violence sexiste et sexuelle, que je vais abréger par VSS parce que c'est plus facile à dire.
Yes, ouais, tout à fait, parce que sinon ça fait beaucoup beaucoup de syllabes, sachant que c'est quelque chose de très présent, donc ça fait beaucoup de syllabes à prononcer pour un sujet qui est malheureusement trop, pas trop présent, mais non, c'est une bonne chose qu'on en parle de plus en plus, mais en tout cas, voilà, qui est assez trop récurrent. Quoi.
Exactement. Donc la première chose que je voudrais dire à propos de cette réaction, c'est vraiment qu'on ne pense pas du tout aux victimes. Quand on écrit « Oh non, pas lui », on oublie que derrière, il y a une victime ou plusieurs qui a eu le courage de parler. Et parler, quand on est une victime, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement dur et il y a des conséquences qui sont énormes, financières, dans le travail, enfin vraiment il y a des conséquences qu'on n'imagine pas. Et donc réagir comme ça, c'est aussi une forme d'égoïsme parce que c'est aussi se dire oh non, ça m'est trop inconfortable d'accepter que un tel ou une telle ait pu faire ce genre de choses.
Non, en plus de ça, comme tu dis, c'est quelque chose de récurrent parce que même à l'échelle musicale, on compte même plus le nombre d'artistes qui sont avérés coupables de ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sphères. On pense également à un procès qui a marqué l'histoire, le procès Pellico, où parmi les suspects, on avait toutes sortes de profils, toutes sociologies qui se retrouvaient dans
Exactement.
Ça.
Exactement.
Plus également les statistiques qui que la plupart de ce genre de situations se font dans la sphère privée et la sphère professionnelle.
Exactement. En fait, il y a un mécanisme qui se met en place qui nous empêche de penser les VSS correctement, c'est le fait de ranger les gens dans la catégorie gentil ou méchant.
Ouais.
En fait, on se dit que si quelqu'un a violé, si quelqu'un a agressé, si quelqu'un a manipulé, alors c'est un méchant. Et du coup, il y a une sorte de dissonance cognitive qui se met en place. On ne peut pas être ami avec un méchant. Donc la première chose à faire, selon moi, c'est vraiment de sortir de ce mécanisme, d'arrêter de croire qu'il y a des gentils et des méchants.
Tout à fait, c'est peut être une... entre guillemets, ce que certains peuvent qualifier d'une erreur ponctuelle ou
Exactement. De
folie ou autre.
Un dérapage.
Mais qui, en fait, là où la différence se fait, de ce que j'ai compris sur ce sujet, et justement c'est bien qu'on en parle ensemble, c'est que c'est surtout dans le traitement en fait, de la chose lorsqu'elle arrive qu'il y a quelque chose de systémique.
Oui. Il y a le traitement et il y a l'action en lui-même. En fait, le fait de penser que quelqu'un qui a agressé est un monstre, c'est pas possible. Déjà parce que les monstres, ça n'existe pas, on le sait.
Yes.
Et ensuite, c'est vraiment c'est catégoriser une personne en fonction d'une action qu'il ou elle, parce qu'il y a aussi des femmes qui agressent, c'est vraiment une infime minorité, mais ça existe aussi, a commis. Et en fait, c'est un problème. Il faut vraiment aussi sortir de ça. Penser que quelqu'un qui a violé, qui a agressé, c'est un fou furieux, c'est pas vrai du tout. C'est des gens complètement normaux. Et ils le font parce qu'on est dans une société qui s'appelle la société, enfin que je qualifie de société patriarcale, C'est-à-dire que ça s'inscrit dans un système. C'est tout un contexte qui met en place, enfin c'est un contexte qui est mis en place, qui va permettre et qui va même encourager les agresseurs à agresser. Donc je ne suis pas en train de dédouaner ou de déresponsabiliser les agresseurs et les agresseuses, parce que ça c'est important. Mais quelque part, au départ, c'est presque pas eux qui ont décidé d'agresser, c'est d'abord la société et la culture dans laquelle on baigne depuis très longtemps qui permet ça, qui permet aussi que ça continue. Donc ça passe aussi effectivement par le traitement médiatique, la façon dont on en parle.
De toute façon, on est aussi dans une radio entre guillemets musicale, et on le voit aussi dans le traitement des rapports hommes-femmes à travers la musique, les films, également le comportement que certaines personnalités qui sont des exemples pour pas mal de générations donc viennent conforter ce déséquilibre, ce rapport déséquilibré dans les relations interpersonnelles. Et on est quand même dans une époque où je trouve que ça évolue pas mal. Ça me fait penser d'ailleurs à il y a quelques mois de cela, peut-être un an ou deux, j'ai été invité à une conférence sur le hip-hop avec, des anciens. Dans une table ronde où on parlait justement des différentes générations, et dans cette conférence les anciens avaient cette posture un peu paternaliste de comment guider les jeunes en perdition et tout ça, alors que eux-mêmes, quand on parle de VSS, moi j'ai un exemple criant, c'est Afrika Bambaataa, fondateur de la Zulu Nation, qui est pédophile, agresseur, enfin bref, qui a la totale, et de manière notoire, c'était même un secret de polichinelle depuis les années 90. Donc voilà, des scandales sont éclatés au grand jour, il a fini par se faire évincer de la Zulu Nation, et donc du coup, voilà, c'est le genre de choses qui ont été entretenues pendant des années, qui ont été institutionnalisées, et ces mêmes personnes qui font partie de ces collectifs-là ont dans cette posture-là, été dans le comment aider les jeunes, alors qu'eux-mêmes, ils ont laissé passer des choses là où maintenant, aujourd'hui, avec les générations actuelles qui sont beaucoup plus sensibilisées à ces questions-là, ce genre de choses ne peuvent plus se reproduire.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la fin de ton intervention.
Dans ce cercle-là, le scandale a été éclaté, là où en fait les personnes qui ont laissé faire ces choses-là viennent juger une génération qui les suit, qui est beaucoup plus sensibilisée et qui laisse moins passer des cas comme ont été celui de Bambaataa et d'autres figures de la culture. Donc voilà, c'est vraiment spécifique à ce cercle-là, je parle pas dans sa globalité.
Oui, c'est ça, mais parce que je voudrais aussi revenir sur autre chose par rapport aux jeunes qui sont plus éduqués sur ces causes. J'ai un trou, je crois que c'est Pauline Ferrari, si je dis pas de bêtises, qui a sorti un essai qui s'appelle Former à la haine des femmes, dans lequel en fait elle raconte que aujourd'hui chez les jeunes, les femmes sont un peu plus engagées, effectivement, elles sont plus à gauche, globalement plus éduquées à ces questions-là, mais les hommes sont beaucoup plus sexistes, en fait, et même beaucoup plus engagés vers l'extrême droite. En fait, il y a une polarisation des nouvelles générations, malheureusement, donc c'est ce qu'on appelle du backlash dans la lutte, c'est le retour de bâton, c'est un phénomène qui se produit quand on commence à prendre conscience qu'il y a des inégalités sur un sujet, que ça sort, il y a toujours un retour de bâton. C'est un phénomène, je dirais, sociologique qui se produit.
Après, on le voit aussi dans le traitement médiatique où,
exactement.
Justement, du côté de la droite, on résume toute la lutte antisexiste à certaines caricatures très extrémistes et qui contribuent à alimenter justement ce discours sexiste et patriarcal. Et de l'autre côté aussi, à titre perso, j'ai aussi, observé, mais en tout cas, il y a eu pas mal d'histoires d'hommes qui sont identifiés comme engagés, voire même féministes, voire même plus féministes que les femmes, et au final on apprend des histoires de VSS les concernent, et qui ont eux-mêmes des comportements tout aussi, voire plus toxiques qu'ils dénonçaient eux-mêmes, alors qu'ils étaient les premiers à prôner une pureté militante.
C'est ça, bah alors là tu dis des choses super intéressantes. Déjà, ça c'est personnel, mais un homme qui se proclame féministe, pour moi c'est dangereux. Mmh. Et le sujet de la pureté militante, c'est un vrai truc. Mmh. C'est hyper important d'en parler parce que la pureté militante, pour définir un peu, c'est un militantisme qui serait poussé à l'extrême et donc on ne serait pas un bon militant tant qu'on n'aurait pas 100%, tant qu'on ne remplirait pas 100% des cases qu'il faudrait cocher pour être un bon militant. Si on part là-dessus, personne ne peut être un bon militant, donc ça exclut tout le monde. Voilà. Mmh. Moi, je suis vraiment dans la team. Même les agresseurs ont le droit de changer. Moi, j'y crois vraiment. Je fais vraiment partie de cette équipe-là. Mais je pense qu'avant de changer et de prendre conscience, il faut prendre conscience. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué parce qu'il y a ce truc de résistance qui se met en place. On peut faire un parallèle avec un autre sujet, c'est le racisme. Tant qu'on ne reconnaîtra pas qu'on est dans une société colonisatrice et raciste, on ne pourra pas évoluer. Il y aura toujours un blocage tant qu'on ne regardera pas les choses en face. Ouais. Et en fait, ça fait un peu mal en tant que personne privilégiée de voir qu'en fait, on a agressé, on a violé, on a fait des choses pas bien. Mais là aussi, il faut sortir de cette dichotomie gentil-méchant parce que sinon, on va pas y arriver. Il faut vraiment accepter. Voilà. Et puis, moi, je trouve que ce qui aide, on va dire, pour soulager les consciences des personnes qui se diraient « Merde, c'est possible que j'ai agressé », c'est vraiment de regarder le contexte sociétal. C'est vraiment un système. C'est un système capitaliste, c'est un système raciste, c'est un système sexiste, système patriarcal et validiste. Enfin, il y a plein d'autres oppressions. Et il faut vraiment toutes les regarder, toutes les prendre en compte. D'abord, c'est hyper intéressant. Et ensuite, c'est ça qui va nous permettre de regarder ces mécanismes qu'on a pour la plupart à l'intérieur de nous. C'est presque inconscient. C'est des injonctions, ça se présente de plein de façons. Et quand on les regarde et qu'on les identifie, ça nous permet de les décortiquer et de se dire « Ah mais attends, je suis peut-être pas d'accord en fait avec ça. Oui, j'ai fait de la merde, mais peut-être que maintenant je peux changer. »
Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un beau tour de table de sujet et une petite conversation à la fraîche.
Ouais.
Il faudrait trouver un nom à ce
oui,
truc.
C'est vrai, il faut qu'on trouve un nom. On va trouver.
Et en tout cas, c'est une belle exploration, un beau début d'exploration de sujets essentiels que tu nous fais, ma chère Léa.
Et c'est avec
je
plaisir.
Te propose une petite pause
Bien
musicale
sûr. Bien
pour
sûr.
Donc, voilà, illustrer tout ça sur le Rotadzik. De retour sur LGTDZ, on a une petite pause sonore, une petite pause musicale et toujours en compagnie de Léa sur le sujet des violences sexistes et sexuelles et qu'est les VSS où on en parle dans la tranquillité. Mais en même temps, on fait un tour d'un sujet essentiel qui devrait être évoqué. J'en pense qu'on devrait parler plus souvent en tout cas.
Ouais.
Et sur le Grotadzik, on en parle aussi avec des gens qui ont étudié la question et qui... Donc voilà, Elia, comment décrire un peu du coup ce que tu veux? Parce que pour celles et ceux qui tomberaient là sur ce format-là, tu as une chaîne, tu as un compte Instagram sur lequel tu fais des vidéos régulières sur différents sujets politiques, militants, donc pas que les VSS... également
le fascisme,
voilà, tout à fait, le tournant politique, le tournant que prend notre paysage politique. Et donc du coup c'est des vidéos régulières, mais du coup, comment décrirais-tu toi du coup les contenus que tu produis?
Je dirais que c'est du contenu éducatif et engagé. Militant, c'est vrai, mais j'essaye aussi, en fait le militantisme ça a tellement une mauvaise image aujourd'hui que je suis militante, je me considère comme militante, mais je le dis pas trop. Enfin, je le dis là. Mais je me présente pas toujours comme militante parce que souvent ça décrédibilise aux yeux des personnes qui savent pas vraiment ce que c'est que le militantisme. Et donc, pour pas passer pour une gros guillemets hystérique et en colère, eh bien, je dis que je fais du contenu éducatif et engagé, ce qui est vrai. Et c'est du contenu, bien évidemment, de gauche, parce que je suis très de gauche, au cas où ça se voyait pas.
Alors, je pense que la couleur politique n'est plus à prouver ici, ne serait-ce que par rapport au soutien qu'on affiche aux dernières élections législatives, et aussi la musique que l'on diffuse, parce que la musique que l'on diffuse, elle a une histoire, elle a un message, elle est issue de combats, et ça serait complètement être dans le déni de renier l'histoire des cultures afro-américaines, afro-descendantes, et j'en passe, qui sont revendicatrices et qui portent en elles déjà une couleur politique qui n'est plus à... une couleur politique assez évidente. Donc voilà, et je sais pas, on passe maintenant puis en mode interview un peu. Du coup, ma chère, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de ce tournant dans ta production de contenu?
Ça fait longtemps que, en fait, je m'intéresse beaucoup à ces sujets, les sujets engagés depuis très longtemps. Le féminisme, c'est vraiment un sujet que je maîtrise. Enfin, j'aime pas dire que je maîtrise parce que déjà, je suis pas sûre de maîtriser, mais je connais très bien.
Ouais,
je connais très bien. Vraiment, ça fait plus de 15 ans que je bosse ce sujet à fond. Donc, je suis assez à l'aise pour en parler. Mais globalement, avec le féminisme, j'ai découvert l'intersectionnalité et donc toutes les autres luttes, notamment les luttes contre le racisme, contre le validisme, contre la grossophobie, toutes les luttes, quoi. Et c'est un sujet qui m'a... Enfin, ce sont des sujets qui me passionnent. Donc, plus largement, ça touche aussi à la politique et à la sociologie. En fait, je suis spécialiste de rien, à part peut-être un peu le féminisme, c'est vrai. Mais je sens en fait que j'ai besoin d'en parler, déjà pour moi, parce que ça me permet de canaliser, mais aussi dans mon entourage. Ça fait des années en fait que j'éduque mon entourage. C'est un peu violent dit comme ça, mais c'est aussi vrai. Beaucoup de gens me le disent, et je me suis dit que ça serait peut-être bien d'en faire quelque chose de plus accessible, de plus pensé, de plus réfléchi, tout en m'amusant aussi, parce que la vidéo, c'est un médium que je connais un peu.
Parce que du coup, là, pour c'est ceux qui n'ont pas encore eu la chance de consulter ton Insta, ça prend la forme de vidéos très montées, des petits formats, des stories interactives également, ouais. Où tu vas vraiment prendre le temps de définir des concepts, aussi te documenter.
Ouais.
Et donc on est vraiment sur un réel travail, quoi. On n'est pas sur la vidéo du gars dans sa voiture qui pousse un coup de gueule.
Non, ça me prend plusieurs jours pour faire une vidéo. Je vais chercher beaucoup de sources. Je lis des livres, donc ça prend du temps.
Donc il y a de la vulgarisation.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est comme ça que je devrais commencer par me définir, t'as raison. C'est plus de la vulgarisation, ce qui est très agréable à faire. J'aime beaucoup, c'est un exercice qui est assez chouette. Ça me plaît beaucoup. Oui, c'est plutôt ça que je fais en premier, de la vulgarisation.
Yes.
Donc, ouais.
Et donc du coup, pour cette première, le joyeux sujet des VSS dont on a parlé, on avait fait un petit tour donc du coup de ce qu'était les VSS. Tu as parlé aussi de ton point de vue où tu étais plutôt team de droit à la repentance, où
bien sûr.
Tout le monde est un potentiel agresseur, ouais. et la différence se fait en fait dans la reconnaissance de ce qu'est le concept de VSS, sa systématisation, le fait que tu peux me couper ou me
reprendre, bien sûr.
Si jamais...
J'ai des chiffres après à donner si jamais, mais vas-y.
Et donc voilà, que ça s'inscrit dans un système et que toutes les sociologies sont représentées, comme on l'a pu le voir avec le fameux procès Pellico, et que c'est surtout au niveau des réactions et lorsque les choses sont révélées qu'il y a vraiment un phénomène systémique qui se met en place.
Ouais. Oui, il y a cette espèce d'indignation, on est choqué, on ne veut pas voir les choses en face. Là, j'ai des chiffres à rappeler quand même, parce que les violences sexistes et sexuelles, déjà, ça peut être, j'en profite pour placer un mot sur le fémonationalisme, parce que c'est un sujet important.
Oui.
Ça peut être, donc les violences sexistes et sexuelles peuvent être instrumentalisées par notamment l'extrême droite, et dans notre culture qui est donc colonialiste et raciste, on a tendance à croire que les personnes qui sont auteurs, autrices et surtout auteurs d'agressions sexuelles et de viols sont des personnes non blanches. Donc ça serait des gens comme ça, on ne sait pas trop qui d'ailleurs. On a vraiment un cliché du viol dans un parking souterrain, c'est pas vrai. Ce que je veux rappeler, c'est que dans 9 cas sur 10, la victime connaît son agresseur, ça c'est super important de savoir ça. Ensuite, là je vais parler des agressions, parce qu'il y a les femmes certes qui souffrent des agressions beaucoup, mais les grands oubliés, et on en parle de plus en plus maintenant, c'est les enfants.
Oui, d'ailleurs, ça fait aussi écho avec un autre grand sujet d'actu, avec un premier ministre qui était maire d'une ville, ministre de l'éducation, enfin bref, qui était à la confluence de toutes les responsabilités politiques, et une institution catholique qui a pu tranquillement mettre en place un système qui s'étale sur des années.
Exactement.
Donc, de toutes sortes de violences physiques,
ouais.
Sexistes, physiques
et sexuelles sur les enfants.
Et donc à l'encontre d'enfants, et en l'occurrence là, pas un seul mot de la droite et de l'extrême droite.
Non. Mais parce qu'en fait, moi j'aime bien penser en termes de corps. On est vraiment éduqué dans une société où le corps des hommes blancs, cisgenres, hétéros, bourgeois a plus de valeur que les autres corps. Donc même si on est un homme comme ça, un HSBC, c'est le raccourci, même si on veut bien faire, en fait, on est tellement éduqué, on est tellement biaisé par cette croyance que inconsciemment, on se rend pas compte qu'on pense au fond que le corps d'une femme ou d'un enfant vaut moins que le nôtre. Donc, on va avoir plus de droits dessus. Par exemple, dans notre société, quand on parle des violences sur les enfants, les gens souvent ont tendance à tourner ça en ridicule. Mais quand on réfléchit, on a une façon de traiter les enfants dans notre société qui est catastrophique. Enfin, je veux dire, un enfant qui pleure dans un wagon de train, on pète un câble, on souffle, on pense que cet enfant est insupportable, etc. Mais à aucun moment on se met à la place de l'enfant. Pourquoi on a autant de mépris envers les enfants? J'ai pris cet exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais il y en a sûrement d'autres qui sont plus parlants. Mais pour pousser le truc jusqu'au bout, je rappelle que le viol n'est en aucun cas du sexe ou de la sexualité. Le viol, c'est un acte de domination. Jamais c'est de la sexualité. Et ça, c'est hyper important de le dire parce que c'est pour ça que c'est un tabou. On ne veut pas parler d'inceste ou de violence sexuelle sur les enfants parce qu'on se dit « Ah, mais c'est un peu de la sexualité, ça n'a aucun rapport avec du désir ou quoi que ce soit, ou de l'amour, pire encore. » C'est vraiment un outil de domination. Donc, pour prendre l'exemple de Betaram, c'est un exemple, mais c'est hyper emblématique des violences sexuelles sur les enfants. Donc pareil, je peux rappeler des chiffres. 160 000 enfants par an en France sont victimes de violences sexuelles. 3 enfants par classe, ça c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui. Mais ils sont sous-estimés parce que c'est sur du déclaratif. Donc il y a plein de gens qui oublient. Il y a un mécanisme qui s'appelle l'amnésie traumatique. Quand on souffre de violences quand on est enfant, le cerveau il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc souvent, il y a un mécanisme d'amnésie traumatique qui se met en place. Donc il y a des personnes qui ne savent tout simplement pas qu'elles ont subi des violences sexuelles pendant leur enfance. Donc les chiffres, ils sont en dessous de la réalité. Donc pour finir sur ces chiffres, on voit que c'est énorme. Donc on ne peut pas imaginer, pour faire un lien avec ce qu'on disait avant la pause, on ne peut pas imaginer que tous les auteurs et autrices, parce qu'il y a aussi des femmes, je le répète, surtout dans l'inceste, les auteurs et autrices de violences sexuelles sur les enfants ne sont pas des fous, ne sont pas des malades, ne sont pas complètement comme ça en dehors de la société. C'est des vrais gens qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on aime, avec qui on partage la société. Et ça, il faut le rappeler, c'est important.
Et d'ailleurs, pour rester sur la joyeuse thématique du viol, il y a aussi un autre sujet auquel je pense, c'est qu'il y a aussi un amalgame qui se fait où l'homophobie se sert également du concept de viol pour amalgamer donc du coup cette violence-là à l'homosexualité dans sa généralité. Par exemple, chez les populations racisées ou dans certains pays afro-caribéens, il y a aussi cet amalgame de tous les homosexuels sont des violeurs, la parentalité devrait être interdite aux enfants, aux couples homoparentaux parce que du coup l'enfant va forcément se faire abuser. Mais si on remonte aux origines de cette croyance, il y a aussi le fait qu'il y a eu des viols chez certaines populations et donc du coup inconsciemment et même à travers les générations, du coup le rapport, le viol d'un homme sur un autre est considéré... et amalgamé, associé à l'homosexualité dans sa grande globalité et vu comme une déviance.
Ouais, en plus il y a plein de croyances qui sont mélangées là-dessus parce que là j'ai peur de dire des conneries. Un épisode des couilles sur la table qui est sorti très récemment qui raconte...
Très bon podcast d'ailleurs.
Ah ouais, il est génial. Donc je vais peut-être dire des bêtises mais c'est pas grave. Je pense que c'est en Grèce antique, il y avait un rituel qui permettait aux jeunes garçons de devenir des hommes et ça passait par la sodomie. Donc déjà, il y a plein de problèmes là-dedans, mais ça montre bien que la violence sexuelle sur les enfants, ça date pas d'hier. Et en plus, ça me fait penser à ça, c'est vraiment des amalgames, des mélanges de trucs qui nous restent de culture, qu'on a entendu plus ou moins, on mélange tout. Et je le répète, les agressions, les viols et les agressions sexuelles ne sont pas de la sexualité, jamais, jamais, en aucun cas. C'est toujours de la domination. L'anthropologue Dorothée Ducy parle de viol de... l'expression. De circonstances ou de... Ça me reviendra. En gros, c'est quand on a l'occasion. J'ai l'occasion.
Oh, opportuniste.
De viol d'opportunité, voilà, je crois que c'est ça son expression.
Les gens qui vont feindre une amitié pendant des années et à la première occasion, ça flanche, qui qui peuvent sauter sur l'occasion pour essayer d'avoir...
Oui, alors ça, ce serait dans dans le côté du site, je parlais dans le cadre de l'inceste, donc sur des enfants, oui. Mais ça fonctionne aussi. C'est bien important de comprendre, donc là, pareil, puisque je parle de Dorothée Ducy, qui donc est une anthropologue qui a travaillé sur le sujet, qui le maîtrise sur le bout des doigts. Elle, sa théorie, c'est que l'inceste, c'est le berceau des dominations. C'est-à-dire qu'on a tous été baignés dans cette culture, consciemment ou inconsciemment, et que du coup ça va construire en fait notre moyen d'être en relation les uns avec les autres. Donc l'inceste, avant d'être des agressions, des viols et des choses comme ça qu'on peut s'imaginer qui sont très graphiques et violentes, l'inceste c'est d'abord du tabou, de la domination et de la silenciation. C'est d'abord ça. C'est quelqu'un, souvent un patriarche, qui va avoir tous les droits sur sa famille. C'est ça le berceau de l'inceste. Et du coup, on va reproduire ce mécanisme. Moi, je l'observe en entreprise, par exemple. Il y a un patron qui va avoir tous les droits sur ses salariés. Puis ça peut se retrouver dans la famille. Hein. Malheureusement, c'est toujours quand on va refaire une famille, il y a toujours cette image du patriarche, etc. Et donc, ça fonde la société. Je suis d'accord avec elle. Et ça marche aussi. Donc là, ce que tu décris, quelqu'un... Tu parlais par exemple d'une relation hétéro, c'est deux potes qui sont tous les deux hétéros, qui ont chacun un genre différent, et le mec va en fait manipuler sa pote pour à des fins, qui va à un moment essayer de coucher avec elle.
La garder comme entre guillemets envisageable, alors que voilà, on est sur deux êtres humains qui ont des volontés distinctes, et le corps de l'autre n'est pas une option ou un truc à...
Mais non.
Qui a dispo.
Mais parce qu'en fait, on a tellement été éduqués là-dedans que c'est hyper difficile de sortir de ça. Même quand on est de l'autre côté de la catégorie minorisée ou opprimée, on a du mal à voir ce mécanisme, à l'identifier parce qu'on a été éduqués dedans. Et il faut vraiment comprendre ça. Il faut comprendre aussi que la plupart de nos croyances, de toute façon, dans la vie, c'est un résultat d'éducation. C'est comme nos goûts quand on trouve que les préférences sexuelles, mais aussi quand on trouve que quelque chose est joli, c'est que de l'éducation. Pourquoi on trouve que les poils sur les jambes des femmes, c'est moche? C'est juste de l'éducation.
Et propre à une époque.
Oui, en plus, oui. Oui.
Et bien, les standards de beauté évoluent d'une époque à l'autre.
Et bien, c'est la même chose pour les comportements qu'on peut avoir de domination. Et donc, l'idée, c'est... C'est sûr que c'est vraiment pas cool et c'est même problématique de garder une meuf sous le coude en se disant bon bah à l'occasion je pourrais me la faire contre ou avec ou sans son consentement d'ailleurs. Ça c'est problématique, mais c'est tellement courant, mais c'est hyper courant. C'est même pas genre plein de gens, c'est quasiment tout le monde qui fonctionne comme ça. Et ça il faut vraiment le regarder en face pour pouvoir le changer, parce que tant qu'on le regarde pas, on peut pas voir que ça existe. Donc il faut vraiment en prendre conscience.
En tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on met de plus en plus de mots sur ça.
Ouais, ça c'est vrai.
On les nomme, ou là où ce sont des choses qui sont courantes, qui sont instituées, enfin, qui ont toujours été là. Maintenant, on est dans une période où il y a de plus en plus de prises de parole, et avec aussi la technologie, là, comme on est en train de le faire en ce moment, n'importe qui est son propre média et peut donc, du coup, donner une caisse de résonance à ces combats, à ces engagements et à ces phénomènes qui, pendant longtemps, ont été partout, mais en même temps cités nulle part.
Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que là, l'information avec Internet, maintenant, ça circule mieux, on a plus accès. Mais il faut quand même pas oublier que les thèses, les théories féministes, ça existe depuis très longtemps, en fait. Là, on reprend pas mal ce que nos ancêtres, nos anciennes, on va dire, ont dit avant. Bon, c'est un peu plus poussé, mais... Il y a des thèses qui existent depuis très longtemps. On y a un peu plus accès.
Yes, et ben je te propose une autre pause musicale.
Ouais.
Et après, on enchaîne sur peut-être une autre partie, autre partie de ce podcast très, très, très intéressant. De retour sur LGTDZ dans ce format podcast particulier. Le gros t'as dit qu'LGTDZ, c'est de la musique, mais aussi des problématiques, des sujets de fond. Et donc là, on expérimente avec Léa Lou, donc cette conversation en mode chill sur de vrais sujets, en l'occurrence les VSS, violences sexistes et sexuelles. On a parlé tout à l'heure... de ce qu'étaient les VSS, des différents prismes, des différents composantes et aussi également tout ce qui les caractérise. Mmh. Là, je pense qu'on va partir un peu sur les éléments de réponse,
ouais.
Et également sur les idées de solutions et également les différentes expériences autour de cela.
Bien sûr. Yes. Il y avait une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est une phrase, j'arrive pas à croire que je dis ça, mais je le pense vraiment, c'est que c'est difficile de pas être un agresseur dans notre société patriarcale. C'est-à-dire que même avec plein de bonne volonté, sans travailler son sujet, c'est très compliqué de pas agresser en fait. C'est parce qu'on est dans une société qui baigne dans ce qu'on appelle la culture du viol. La culture du viol, c'est tout ce qui banalise le viol ou l'érige en quelque chose qu'il n'est pas. Donc on a parlé tout à l'heure des chiffres et du nombre en fait immense d'agressions et d'agresseurs. C'est pas parce que tout le monde est méchant, c'est bien parce qu'on est dans une société qui le permet. On le voit dans la culture, dans la pop culture, on le voit dans le cinéma, dans les livres. Il y a par exemple l'image du bad boy qui est vraiment érigée en modèle. La plupart des petits garçons qui sont aujourd'hui des hommes ont construit leur masculinité avec ce genre d'exemple. Donc on en parlait tout à l'heure. Dans Star Wars, il y a cette scène qui est maintenant assez connue de Han Solo qui force Princesse Leia, si je ne dis pas de bêtises, à l'embrasser. C'est un exemple, mais en fait, dans la plupart des films et des livres, il y a toujours des agressions qui sont romantisées. Hein, je pense plus récemment, enfin, c'est quand même vieux maintenant, mais dans Ratatouille, le bisou enfin entre les deux protagonistes, en fait, c'est d'abord une agression. La meuf, j'ai oublié son nom, elle a quand même sorti une bombe au poivre. Et finalement, au bout d'un moment, elle lâche. Le message, en fait, il est que quand t'es un homme, tu forces. La femme, au début, elle veut pas, puis en fait, elle finit par vouloir.
Ouais, et après, ça, c'est dangereux. Il y a aussi le fait que la femme est aussi vue très souvent comme un trophée.
Exactement.
Je pense notamment à que ce soit dans les jeux vidéo, dans les œuvres de fiction, et même tellement dans la lecture qu'on peut avoir du corps féminin dans la musique. On parlait... dans une des hors antenne, dans une d'un des morceaux qu'on a passé, donc on a tout ce discours, et même aussi pour aller encore plus loin que ça, la culture hip-hop, le rap dans sa généralité, qui aux yeux du grand public est vu comme un genre musical particulièrement sexiste, patriarcal et tout, alors qu'en fait c'est juste le reflet de la société.
Exactement.
Si on creuse dans l'histoire même du rap, dans les tout débuts, ça a toujours été un courant culturel. Issus de minorités, issus de la diversité, sachant que des femmes sont à l'origine même de ce courant-là. Je vous invite d'ailleurs à checker notre podcast qui doit être en ligne avec Real Musul qui avait fait un livre sur Sylvia Robinson, qui était l'ancienne boss de Sugar Hill Records, donc qui est la productrice des titres comme The Message, des Furious Five, associée à Grandmaster Flash, même si... Ça c'est le puriste qui va parler. Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Donc voilà, le morceau est souvent associé à Grandmaster Flash alors que le morceau a été fait avant son intégration dans le groupe. Elle a été aussi membre du tout premier groupe de rap féminin de l'histoire, une des toutes premières productrices de l'histoire de ce mouvement, qui a mis le pied à l'étrier à plein de rappeurs iconiques, et même à l'image des block parties ou de ce qu'était le hip-hop au tout début. Les femmes ont toujours eu une place prépondérante, mais c'est à partir de la récupération industrielle de la culture musicale que, du coup, la reproduction des inégalités, des oppressions ont été associées à ce genre musical.
Effectivement, j'étais en train de chercher, j'ai oublié le titre, il y a quelqu'un qui a sorti récemment un essai sur le rap, justement, qui montre en fait, je vais faire court parce que là pour le coup je maîtrise pas, mais c'est plein de clichés racistes, hein, évidemment, et pareil c'est une forme d'instrumentalisation de dire que ouais, l'univers, le milieu du rap et du hip-hop, c'est que des mecs qui sont super sexistes.
C'est la même chose que l'instrumentalisation avec des collectifs féministes d'extrême droite qui associent toutes les oppressions à une population
Exactement.
Spécifique.
C'est complètement faux. C'est vraiment pas difficile de voir que c'est faux. C'est 100% de l'instrumentalisation, on l'a dit, mais c'est important quand même de garder ça en tête. Et je voulais revenir, donc pareil. Alors, désolé du coup de pas retrouver cet essai là. J'aimerais bien. Faudrait que je le retrouve.
Ça fera l'objet d'un autre épisode. Ouais. Là, c'est qu'un début.
Ouais, c'est vrai. Mais je suis frustrée. Et sinon, il y en a donc un autre là que j'ai bien en tête. Il est sorti récemment. Ça s'appelle Désirer la violence. C'est écrit par Chloé Thibault. Et celui-ci parle donc de la culture du viol et de comment on est éduqué en tant que femme dans notre société actuelle à désirer en fait la violence et la domination masculine. Et on comprend à travers, donc elle prend des œuvres de la pop culture, donc des Disney, des films connus du grand public, et elle analyse ça pour montrer comme ça nous apprend en fait à désirer la violence quand on est une femme hétéro.
Parce que du coup, ça me fait aussi penser à ce qu'on peut voir sur les réseaux des fois de certains discours masculinistes où cette violence, elle est associée aussi également à la force. Et donc du coup, dans l'imaginaire masculin, il y a ce côté de ouais, si t'es fort, et bah, du coup, tu peux assurer la protection de la femme et la femme va chercher l'homme fort pour être sûr qu'il suit bien, qui vient subvenir assez aux besoins, qu'il assure la protection et machin et tout ça quoi.
Oui, c'est ça, c'est les mâles alpha.
Les parallèles avec le monde, le règne animal. Alors que
c'est faux aussi dans le règne animal.
Que, voilà, les gens parlent de loi de la nature, ordre naturel des choses, alors que l'humanité elle-même est l'opposé total de toute forme de loi naturelle. Et jusqu'à ce jour, il n'y a aucune police de la nature qui nous a arrêtés. Mmh.
Oui, puis pareil, l'argument, plus largement dans la vie, l'argument c'est naturel. C'est un argument, il faut faire attention avec cet argument, parce qu'il y a plein de choses qui sont naturelles et qui sont...
Des poisons naturels. Voilà.
Ah, attraper une infection et mourir d'une infection, c'est naturel. C'est mieux d'avoir inventé les antibiotiques. Donc voilà, l'argument de c'est naturel, c'est souvent mal utilisé. Enfin, c'est utilisé pour faire passer des idées qui sont parfois problématiques. Et donc là, la domination masculine, dire que c'est naturel, c'est complètement faire fi de l'histoire. Il y a même des thèses de chercheuses féministes en préhistoire qui expliquent une différence de force entre les femmes et les hommes, parce que déjà à l'époque, les hommes mangeaient toute la viande. Vraiment, je la fais courte, c'est sans doute plus compliqué que ça.
Après, il y a aussi les standards de beauté. Parce que, tu sais, étudié la question, mais je sais que, par exemple, dans le sport, il y a des disciplines féministes qui, sur des générations, ont complètement entravé le développement du plein potentiel physique féminin. Ou pour des raisons esthétiques, voire même au niveau des performances, des notations des performances, le façonnement du corps féminin, donc qui est lié à la pratique de tel ou tel sport, est pensé pour que le corps féminin ne soit pas trop identifié comme masculin, ou lorsque...
Conserver des apparences,
où en gros on demande aux femmes d'être performantes, mais en même temps pas trop physiques, donc pas avoir l'entraînement qui permet d'avoir accès à certaines performances. Dans la sélection naturelle aussi, le fait que ce qui est considéré comme attrayant, donc potentiellement... après là je vais partir loin dans le développement, mais ce qui est considéré comme attrayant, donc potentiellement pouvoir aboutir à la reproduction et le fait d'avoir des enfants, sont des standards physiques qui mettent de côté les femmes qui ont un plus grand potentiel physique.
Ouais. Mais tout ça, c'est des études. Il y a vraiment des personnes qui ont, j'aime pas trop ce mot débunker, mais qui ont étudié ça. Et en fait, souvent les études qui sont menées qui donnent ces résultats-là, elles sont souvent biaisées. C'est comme, ça me fait penser, là aussi c'est un peu divagué, mais il y a des gens qui ont prouvé qu'on trouvait plus beau les visages symétriques. Mais en fait, c'est pas vrai. Le cadre de ces études est un peu douteux. Là récemment, il y a une vidéo sur YouTube, c'est les Revues du Monde qui a sorti une vidéo sur la beauté, justement, qui en parle bien mieux que moi, parce que là vraiment j'ai pas de source et tout, mais je l'ai regardée, cette vidéo, elle est super, je vous la recommande. Donc là, on est un peu sorti du sujet, mais enfin, quoique pas tellement finalement.
Ouais, on est donc toujours dans la réflexion de tout ce qui amène certains choix sur ce qui façonne ces rapports-là. Mais donc là, je vais faire un peu un drift et revenir donc du coup sur cette partie questions-réponses, éléments de réponse de tout ça. Donc voilà, on parlait tout à l'heure du corps féminin, de tous ces rapports, de toute cette domination. Mais ma question, elle va être aussi en tant qu'homme, donc homme qui est sensibilisé à ce sujet et aussi dans les éléments de réponse qu'on peut apporter. Donc voilà, titre personnel en tant qu'homme hétéro, cisgenre, ayant grandi dans un background, j'ai envie de dire, patriarcal également, et peut-être dans ma jeunesse, voire même très certainement, j'ai eu des comportements problématiques, et c'est via la culture, via pas mal de rencontres, de recadrages et autres, que du coup, j'ai pu être amené à réaliser ça. Et on en parlait en début d'émission. J'ai aussi également une méfiance envers cette image d'homme féministe, plus féministe que les femmes, et qui s'avère être du coup tout aussi toxique, et voire même des fois en pleine conscience de la chose, mais tout en se drapant d'une cape de chevalier. Comment, en tant qu'homme de ce profil tel que le mien, on peut être allié, aider à justement mettre en avant ces choses et contribuer sans pour autant tirer la couverture ou s'attirer la lumière d'une lutte qui nous concerne tous, mais qui est surtout une lutte féministe.
Ouais, ça peut sembler effectivement délicat. Je voudrais revenir sur deux axes concernant les hommes qui se disent féministes. En général, le problème là-dedans, parce que évidemment que vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes, il n'y a aucun problème là-dessus, mais s'auto-proclamer féministe en tant qu'homme et prendre de la place, et par exemple se proclamer plus féministe qu'une femme, c'est problématique parce qu'on sort du féminisme. Du coup, on reprend le problème du patriarcat. En gros, c'est quand même que toute la place est prise par les hommes dans le patriarcat. On pourrait rapporter ça au racisme, hein, c'est pareil.
Exactement, et ça me fait penser à une story, je ne sais pas si tu l'avais vue, que j'avais partagée sur Aboubacar.
Ah ouais, c'est insupportable, mais c'est tellement courant. On peut expliquer peut-être ce que c'était que cette story.
En fait, le truc, c'est que justement, parmi les choses aussi qui ont également contribué à l'éveil de ma conscience sur le combat féministe, c'est les parallèles qu'il y a avec le racisme, avec ce côté infantilisant où les plus belles causes sont des fois portées par les pires personnes. Et donc voilà, cette story, c'était donc du coup un atelier pour le Secours catholique ou autre, où on a vraiment une dame très insupportable.
Une Karen,
une Karen, une Corinne. Enfin bref, et qui parle de manière super infantilisante sur un atelier découpage. Ouais. On a vraiment ce traitement où la personne racisée est vue comme un enfant alors qu'il s'agit d'un homme adulte responsable. Ah
ouais. Puis même lui, ça se voit qu'il est gavé par comme elle lui parle, mais il peut rien dire parce qu'il est exilé, on s'occupe de lui, elle est sympa, il va pas en plus.
Où il y a un côté faire valoir, quoi. Ça me fait penser aussi à pas mal de projets que j'avais pu voir, des projets subventionnés, dont je tairai le nom un peu, où il y a ce côté de on prend des personnes en exil, des personnes migrantes qui ont leur histoire, et en fait on se sert de leur nom, de leur statut, pour mettre en place, je vais caricaturer, mais on va gratter des thunes monstres pour leur faire faire un atelier collier de perles, au lieu de leur trouver du boulot ou financer directement leur émancipation.
C'est ça, c'est capitaliser sur une lutte. C'est se cacher, se draper dans une fausse bienveillance. On se dit « Oh non, mais c'est bien pour eux », mais en fait pas du tout, c'est pas bien. Et on ne pousse pas la réflexion volontairement parce qu'on sait au fond que c'est pas bien. Mais comme on en tire profit, on préfère pas trop regarder et utiliser ces personnes qui ont des corps qui valent moins que le nôtre. Hein, c'est toujours ça, c'est ma thèse, ma théorie.
On le voit dans le traitement idiotique, par exemple, du traitement de certains conflits à travers le monde, ou dans le même cas de figure, en fonction de la nation et de la population.
La couleur de peau.
Donc, la couleur de peau et autres, les victimes ont moins de valeur.
Bien sûr, mais on peut parler du génocide de à Gaza. Hein.
À Gaza,
c'est un
Rwanda,
exemple parlant.
Au Congo. Ouais.
Bien sûr.
Ouais. Beaucoup de choses.
Ouais. Bah ouais, mais c'est ça en fait, c'est ça l'intersectionnalité. Oula, l'intersectionnalité, je vais y arriver. C'est vraiment, c'est toutes les luttes en fait. On peut trouver des parallèles entre toutes les luttes. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant et que c'est riche comme sujet. Donc, pour en revenir à ta question, le fait d'utiliser le féminisme et de se proclamer comme féministe alors qu'on est un homme, ça peut être problématique parce que c'est prendre la place, il faut laisser la place aux femmes de parler de ça. Et parfois, on peut être un homme, on peut avoir lu beaucoup d'autrices féministes, mais normalement, si on a lu beaucoup d'autrices féministes, et pardon pour ce que je vais dire, mais il ne faut pas se limiter. Faut pas se limiter à Mona Chollet. Mona Chollet, c'est très bien pour commencer, mais elle a plein de biais, notamment racistes. Il faut faire attention à sa lecture. Elle n'est pas raciste, elle ne se proclame pas raciste, mais dans sa façon de traiter le féminisme. Ouais, c'est vraiment la blanche bourgeoise qui a un peu la flemme de réfléchir à certaines choses. Donc c'est très bien de lire Mona Chollet, mais il faut vraiment compléter avec d'autres autrices. Là, comme ça, en tête, il y a Bell Hooks qui me vient en tête, qui est vraiment une autrice absolument fantastique.
Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub, parce qu'à Lyon, on a aussi pas mal de rencontres littéraires féministe, je pense au Female Gaze Book Club, je pense également à Balafre et pas mal de choses. D'ailleurs, Balafre, on fait un big up à notre poteau Louise Grossan qui avait fait un podcast et qu'on espère revoir très prochainement sur la radio. Donc voilà, et qui fait pas mal de choses à ce niveau-là.
J'aimerais beaucoup la rencontrer.
Ouais. Voilà, le mot est dit. On va faire en sorte que ça se passe.
Ouais, ça serait trop bien. Donc voilà, du coup, essayez de ne pas prendre trop de place en tant que homme qui se proclame féministe. Et d'autre part, il y a autre chose, et c'est une réalité, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui utilisent le féminisme, entre guillemets, pour pouvoir pécho. Et ça, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pour pouvoir pécho, il y a plein de techniques, mais pas le féminisme, en fait. Il faut être
Exactement.
Un peu
éthique. Et surtout que c'est complètement, j'ai envie de dire, débile, parce que c'est, en fait, c'est la même chose que dans les sites de rencontres. Tu peux pas feindre une relation profonde si le seul but, c'est d'avoir un truc sans lendemain.
Bah, je pense qu'il y a plein de mecs qui pensent que s'ils font pas ça, ils peuvent pas pécho. Ce qui est faux. Je pense
et aussi d'un autre côté, même pour des raisons pragmatiques, sans être dans le fait d'adhérer à une philosophie, pour un mec de base, par exemple, qui pense qu'il y a pécho, s'il y a plus de féminisme, il y a plus de femmes qui sont libres de faire ce qu'elles veulent.
Bien sûr, qui sont d'accord de pécho aussi.
Et voilà, et ça donnerait donc du coup plus de relations potentielles.
Ah ouais, vaut mieux aller straight to the point, voilà. Et essayer d'arrêter aussi de prendre les femmes pour des connes et de vouloir forcément les manipuler. Quoi.
Adopter le féminisme du coup.
Exactement. On n'a pas le temps là peut-être d'aborder les incels, mais c'est aussi un sujet dont j'aimerais parler, un de ces quatre, parce que j'ai deux, trois trucs à dire là-dessus. C'est très intéressant.
Ah, pour moi, c'est un peu la même chose que les formations bullshit, où il y a des gens qui te forment à des métiers qu'ils n'ont jamais eux-mêmes pratiqués.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
Et qui prennent plein d'argent.
Ouais. Bah ouais, donc, voilà. Société capitaliste néolibérale, yes. On y est toujours. Donc, les petits conseils pour arrêter d'être problématique, pour être un bon
Let's
ami.
Let's go.
Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'écouter, c'est de se taire. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est plein de privilèges, donc ça peut être un homme, mais ça peut être aussi être blanc, être bourgeois, être hétéro, il y en a plein. On ne se rend pas compte, mais on a été, parce qu'on est dedans. Selon moi, la première définition d'un privilège, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, avant toute chose. D'abord, on ne se rend pas compte qu'on a le privilège. Donc c'est très difficile, du coup, de s'en rendre compte, vu qu'on ne s'en rend pas compte.
Et surtout que le privilège, c'est tout un spectre, ce n'est pas tous les privilèges d'un côté et tous les
autres. Non, bien
ça
sûr.
Ça peut être vraiment graduel en fonction de son statut, de l'endroit où on se
Exactement,
trouve.
Exactement, des gens avec qui on est.
Statut social, financier, voilà. Enfin bref, il y a vraiment plein de gradations, de niveaux, de types de privilèges.
Et un privilège, ce n'est pas forcément vous qui avez décidé de l'avoir. Et un privilège, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert. Ça aussi, waouh, c'est hyper chiant de devoir à chaque fois dire mais nous aussi on souffre. Mais personne n'a dit que vous n'avez pas souffert. C'est juste qu'il y en a qui souffrent encore plus. Donc l'idée, c'est de mettre moins de souffrance en général. Donc, première chose, on écoute, s'il vous plaît, la parole des personnes qui témoignent. Et pendant qu'on écoute les autres, on peut aussi s'écouter soi. C'est-à-dire observer ces mécanismes de blocage, de rejet, de défense qu'on va avoir. Parce que même tout le monde, en fait, dans notre société, quand une femme parle d'une agression, moi, en tout cas, mon premier réflexe, c'est de la remettre en question. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, je viens de vous l'expliquer pendant une heure. Mais c'est un réflexe parce qu'on est éduqué comme ça. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de le regarder, d'écouter la personne, de la laisser parler. Si sur le moment, vous la croyez pas tout à fait, bon, vous lui dites pas. Dans votre tête, vous dites, j'ai l'impression que je la crois pas trop. Puis après, prenez le temps d'y réfléchir. Pourquoi vous la croyez
ça
pas?
Ça me fait penser également, là, pour faire un peu la traduction avec auprès de personnes qui seraient peut-être pas sensibilisées avec la notion de croire à la parole des victimes. Dans le cadre du racisme, par exemple, lorsqu'on a une personne racisée victime de violences policières ou autres, le premier réflexe des réacs ou de la droite, de l'extrême droite, ça va être d'aller fouiller dans le CV et prendre une action qui n'a rien à voir avec la situation précise pour décrédibiliser la victime ou la rendre en partie responsable de ce qui lui arrive. Et aussi le fait de dire « croire les victimes », ça ne veut pas dire avaler tout cru ce qu'elles disent, mais d'emblée considérer son expérience comme, son témoignage comme crédible et envisageable. Déjà dans un cadre où la plupart des VSS n'aboutissent pas à une plainte,
1%.
Et encore moins 1%
des plaintes pour viol qui finissent bien. Les autres, c'est classé sans suite.
Exactement, voilà. Et le reste, c'est classé sans suite. Donc voilà, c'est déjà... Et donc, considérer cette parole comme crédible et après ensuite...
Bien sûr. Voilà. En fait, ce qui serait chouette, c'est l'énergie qu'on peut voir. Je me base beaucoup sur les commentaires sur les réseaux sociaux parce que j'en lis beaucoup pour comprendre comment fonctionnent les gens. Je vois l'énergie qui est mise, tout troll mis à part, parce qu'il y a toujours des trolls, mais l'énergie qui est mise pour défendre la présomption d'innocence. Par exemple, bon, Gérard Depardieu, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui défendent la présomption d'innocence. Très bien, mais il faudrait faire la même chose pour les victimes. Pourquoi on part toujours du principe que les victimes mentent et que les coupables sont innocents ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réégaliser un peu plus ? Ça serait pas mal parce qu'il y a vraiment cette croyance que raconter qu'une agression, ça va nous apporter quelque chose, de l'argent, de la reconnaissance. C'est faux, ça aussi, c'est prouvé, ouais, et reprouvé.
On a plein d'exemples de youtubeurs, entre autres, qui ont été accusés de VSS. Bien sûr. Des fois même qui sont acquittés alors que les faits sont avérés.
Oui, ou classé sans suite, comme là, l'homme pâle, je crois que ça a été classé sans suite.
Par exemple, et d'ailleurs j'en profite aussi pour faire la dédicace à l'Ours, qui avait fait un joli morceau sur ce sujet. Je vous pouvez retrouver sur la compile 12-12-12 sur lgtdz.com. Parce qu'il y a aussi des rappeurs qui montent au créneau et qui parlent de ces choses-là.
Ça
et,
fait plaisir.
Et donc voilà, et ça aussi, on donne un max de force. Et donc oui, je disais, et qui à côté de ça on parle de youtubeurs ou autres, qui vont continuer leur carrière et qui, en l'espace de quelques semaines, se retrouvent avec les mêmes stats qu'avant les polémiques.
Bien sûr, parce qu'en fait, à nouveau, les corps des femmes sont perçus comme moins importants. Donc, même si on a agressé un corps de femme, ça a moins d'importance qu'un corps d'homme. Donc, j'en reviens à écouter la parole des personnes, les croire, et s'écouter son soi et ses propres mécanismes de défense, c'est important. Ensuite, il y a autre chose, c'est éviter au maximum la violence. On est dans une société aussi de violence. Qui érotise la violence, c'est naturel, c'est... Je ne trouve plus le mot, normaliser. La violence est normalisée. C'est important d'essayer d'éviter cette violence qu'on peut ressentir face à une victime qui témoigne. Il y a une montée de violence. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, mais ça, c'est important de la regarder et de l'éviter. Et l'autre violence qu'il faut éviter, c'est celle qu'on peut se diriger envers soi-même. Quand on réalise qu'on a agressé, peut-être qu'on a violé, qu'on a été problématique, on peut rentrer aussi dans une dichotomie et on peut s'accabler, on peut être violent envers soi-même. Et ça... ça sert à rien, ok ? C'est comme envoyer quelqu'un en prison à perpétuité, c'est que pour protéger les autres, mais pas lui. Vous n'allez pas partir en prison, vous n'allez pas vous flageller toute votre vie, ça sert à rien d'être violent. Il faut plutôt comprendre, plutôt que d'exercer une violence envers vous-même, si vous réalisez que vous avez été problématique. Et je voudrais rajouter un dernier truc, là c'est assez personnel. Moi, ça me plairait que les différentes personnes qui m'ont agressée dans ma vie, parce que je suis une femme, donc forcément j'ai vraiment un bel historique d'agressions diverses et variées.
Surtout dans les milieux culturels et festifs.
Ouais. Et puis partout, hein, ouais. Moi c'est de la famille aux amis en passant par, enfin bref, c'est la totale. Ce que je trouverais absolument incroyable, c'est de recevoir des excuses. Pour moi... quelqu'un qui présente ses excuses à une personne qui l'a agressée, ça n'enlève pas l'agression. Mais ça montre que la personne a compris. En fait, ce que je voudrais dire pour terminer là-dessus, c'est avoir agressé, c'est quelque part, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, surtout dans une société qui pousse à l'agression, comme la nôtre, avec la culture du viol. C'est mieux de pas agresser, mais une fois que c'est fait, bah c'est fait. Donc, ce qui compte, c'est comment on gère l'après. C'est ça qui va donner de la valeur à qui vous êtes et à qui vous voulez être.
C'est réparer, quoi. Réparer,
ouais, c'est ça, tout exactement. Simplement.
C'est prendre en considération les conséquences de son acte. Et
c'est faire... possible. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Mais
non, ouais. Non, mais c'était, ça allait dans le sens de ce que tu disais. Et ouais, tout simplement, analyser les causes et faire en sorte que ça ne se reproduise plus, ou voire même être soi-même dans l'effort de faire en sorte que ce genre de cas de figure ne se reproduise pas ailleurs.
Ouais, on peut être un relais pour ses pairs, PAIRS, parce que parfois, comme toujours pareil, on est toujours dans une société patriarcale, parfois la parole des hommes est plus prise en compte. J'aimerais bien que ça change, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Donc si vous êtes un homme et que vous avez envie d'être féministe, bah, allez plutôt parler aux autres hommes. Prenez la défense de vos de vos proches femmes et autres minorisés pendant les apéros, pendant les repas de famille. Déjà pour commencer, dites quand un truc est problématique. Parce que ça, déjà si on commençait là, ça serait pas mal, quoi.
Complètement. Et d'ailleurs, voilà, j'en profite aussi pour rappeler le fait que, au-delà de ça, enfin, en plus de tout ça, donc voilà, plus les gens auront la liberté de se sentir bien comme ils sont dans les milieux festifs, dans les soirées, concerts et autres, et plus il y aura de diversité, et plus il y aura des possibilités de rencontres, d'interactions. Et
bien sûr.
Parce que les gens sont au top de leur attractivité quand ils sont bien,
en safe sécurité.
Et en sécurité. Ouais. Et dans la liberté d'être eux-mêmes.
Exactement.
Donc voilà, ces belles paroles. Je pense qu'on a une belle émission donc, qui sera sur les plateformes, même si vous écouterez, j'imagine, ce podcast depuis les plateformes. Donc c'est un peu comment il s'appelle le film déjà, j'ai oublié.
Papillon.
Inception, effet papillon, enfin bref. En tout cas, voilà, c'était donc Léa Lou, que vous pourriez retrouver maintenant sur les ondes de LGTDZ, sur nos plateformes de podcast. Et donc voilà, au moment où on enregistre, on ne sait pas encore sous quel canal sera diffusée cette émission, mais en tout cas, vous pouvez l'écouter en intégralité et checker tout ce que l'on fait sur lgtdz.com.
Merci beaucoup, Alpha. J'ai adoré faire ça.
Une dédicace ou un truc, un mot à faire passer
Bah, je pense que j'ai fait passer pas mal, pas mal de messages. Non, je veux juste dire que je suis très contente et que j'ai hâte de faire d'autres émissions.
C'est qu'un début. Sur cela, un gros bisou à vous.